بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فنبدأ الآن الدرس الرابع من شرح الكتاب التعليق المتين على أصل السنة واعتقاد الدين، وهو شرح لعقيدة الإمامين الرازيين أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي برواية ابن أبي حاتم الرازي حفظهم الله ورحمهم الله أجمعين. وهو شرح والشرح للشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وقد قام يعني ببعض التعليقات على شرحه يعني من ضمن الدروس التي ألقاها يعني في الدورة، دورة الإمام عبد الله القرعاوي في جنوب المملكة العربية السعودية في مدينة صامتة. فنحن نترجم الآن هذه الدروس إلى اللغة الفرنسية، فنبدأ إن شاء الله. فمaintenant on va commencer le cours numéro 4. Et c'est l'explication du livre du Cheikh Zayd al-Madkhali, qui est le charh de la aqida des deux imams, hein, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, par la narration de Ibn Abi Hatim al-Razi. Et c'est les cours qui ont été donnés durant le séminaire de l'imam Abdullah al-Qarawi. Et donc on les traduit en français pour les frères et les sœurs qui ne parlent pas l'arabe et qui ne comprennent pas encore l'arabe. Donc, on est arrivé, donc, comme je disais, au cours numéro 4, et le sujet, donc, vous allez entendre de quoi il s'agit. On va commencer par lire le texte. L'imam Ibn Abi Hatim il rapporte, donc, de son père et de l'imam Abu Zur'a. Il dit « Wa khayru hadhi l'umma ba'd nabiyha Abu Bakr al-Siddiq thumma Umar » ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون. donc ça c'est le texte donc de la aqida des deux imams. À ce sujet il dit que les meilleurs de cette umma après son prophète, c'est-à-dire après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr al-Siddiq et Omar ibn Khattab et Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Et ce sont les successeurs, les khulafa bien guidés, al-Rashidoun, c'est-à-dire qui sont sur la droiture, al-Mahdiyoun, qui sont bien guidés. Et maintenant on va lire le charh, hein, ou la traduction du charh du Cheikh Zayd al-Madkhali de cette parole et de cette explication. Donc le Cheikh il dit ceci aussi fait partie de l'explication et de la clarification de la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à la tête de ceux-ci les quatre successeurs, les quatre khulafa radiyallahu anhum, et leur ordre dans le mérite est le même que leur ordre dans le khilafa. L'ordre qu'ils ont dans le mérite, c'est-à-dire dans leur mérite, c'est-à-dire celui d'entre ceux qui sont, c'est-à-dire lequel est meilleur d'entre eux, eh bien c'est le même ordre que l'ordre qu'ils ont dans le khilafa, c'est-à-dire que le meilleur d'entre eux c'est Abu Bakr, puis c'est-à-dire ça c'est le meilleur après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, et après les prophètes et les messagers, donc c'est lui qui est le meilleur de la Ummah. Puis ensuite il est suivi de Al-Farouq Omar radiyallahu anhu, et ensuite il est suivi de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et il est suivi ensuite de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ceux-ci sont les successeurs, les khulafa, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet sallallahu alayhi wa sallam: certes, celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Alors, je vous incite à vous accrocher à ma sunna et à suivre la sunna de mes successeurs qui sont sur la droiture et qui sont bien guidés après moi. Mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute innovation est un égarement. Car toute innovation est égarement. Toute bid'a est dalala. Donc, ça, après avoir mentionné ça, il dit, et ceci, c'est selon le consensus de la Ummah. Hein, ceux, bien entendu, ceux qui, il y en a ceux qu'on prend en considération par rapport aux questions d'ijma, aux questions de consensus. Donc, ceux qu'on considère, ceux dont on reconnaît le consensus. Donc, ceci est selon le consensus de la Ummah, c'est-à-dire ceux dont on prend en considération le consensus, au sujet de l'ordre des khulafa, hein, l'ordre qu'ils ont dans le khilafa, et l'ordre qu'ils ont dans le mérite également. Et c'est le même, hein, les deux c'est le même. L'ordre qu'ils ont dans le mérite, c'est le même que l'ordre qu'ils ont dans le khilafa, comme on l'a expliqué précédemment. Et Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ils sont dans le juste milieu en ce qui concerne les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam entre les Khawarij, hein, qui manquent de respect envers les Sahaba, et les Rawafid, qui sont aussi extrémistes et qui manquent de respect envers les Sahaba. L'explication de cela, c'est que Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ils clarifient ce que les Sahaba ont comme droit. Et ils les mentionnent selon ce qui convient, de mentionner à leur sujet par rapport à leur mérite et par rapport à leur noblesse, puisque ce sont les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'ils ont préservé la science de la charia pour nous et qu'ils l'ont transmis à ceux qui sont venus après eux, et qu'ils ont lutté dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah, et qu'ils ont propagé et diffusé l'islam dans toutes les régions de la terre. Hein? Et les gens de la sunna, ils mentionnent également, lorsqu'ils mentionnent les sahaba, ils mentionnent la satisfaction d'Allah à leur sujet. Hein? Ils disent « radiyallahu anhum ». Et ils invoquent pour eux, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux des récompenses pour ce qu'ils ont fait et une rétribution, hein, par rapport à ce qu'ils ont laissé comme héritage. Et la connaissance, la reconnaissance que Ahlus Sunnah wal Jama'a donne au degré et à l'importance des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette connaissance-là fait partie de la connaissance de la charia. Et c'est une connaissance qui ne va pas à l'extrême, c'est-à-dire dans l'exagération, ni dans le laxisme ou le manquement, hein, envers eux. Et il se base sur les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il fait l'éloge des sahaba, il les glorifie. Hein? Et il parle d'eux avec les plus belles qualifications. Hein? Et il mentionne à leur sujet qu'il est satisfait d'eux et qu'eux sont satisfaits de lui et qu'il les a agréés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le verset 100 dans sourate At-Tawbah, hein, les tout premiers qui ont précédé parmi les muhajirin, ceux qui étaient à la Mecque et qui ont émigré, ou l'Ansar, les habitants de Médine qui se sont convertis à l'islam, qui ont défendu l'islam, ceux qui les ont suivis, hein, avec excellence, avec perfection, avec de la meilleure manière. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et Allah a promis pour eux ou a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et cela est là le grand succès ou la grande réussite. C'est le verset 100 dans Surat Tauba. Et également, dans la Sunna, on retrouve également des attributs et des qualificatifs des Sahaba qui montrent comment ils ont été mentionnés de la meilleure façon aussi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, دعوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laissez mes compagnons, c'est-à-dire ne leur faites pas de tort ou d'agression ou d'offense, car si l'un d'entre vous devait donner en aumône la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud, cela n'aurait même pas la valeur de la poignée de main que donne un sahabi en aumône, ni même la moitié d'une poignée de main. Donc, comme on l'a dit précédemment, que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui suivent As-Salaf As-Salih, les salaf al-salih, les pieux prédécesseurs et ceux qui les suivent, ils reconnaissent la valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils considèrent que de les aimer est une obligation que Allah a rendue, a établie, et que c'est une chose que Allah a rendue obligatoire dans le Coran. Et le fait de mentionner l'agrément à leur sujet, la satisfaction à leur sujet, ça fait partie des exemples et de la voie des salafs. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'eux, on dit « radiyallahu anhum ». Ça fait partie de la guidance des salafs. Et le fait de les aimer et de se taire au sujet de ce qui s'est produit entre eux comme dispute ou comme conflit, tout ça, ça fait partie de la guidance des salafs au salih. Et les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils suivent cette voie-là. C'est ça, c'est leur guidance, c'est leur voie. Et également, ça fait partie de la guidance des ulama qui sont venus après eux, jusqu'au jour de la résurrection. Ils suivent toujours cette voie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat al-Hashr, le verset 10, et ceux qui sont venus après eux disent, notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et à la tête de cela, bien entendu, il y a les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne les Rawafid, c'est-à-dire une des sectes parmi les sectes des Shia, qui on les appelle les Rawafid, eh bien eux, ils ont exagéré au sujet de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier à propos de Ali ibn Abi Talib et de Fatima et de ses fils, radiyallahu anhum. Et ils se sont divisés en trois sectes. La première, qu'on appelle Al-Firqa Al-Mu'alliha, c'est-à-dire la secte qui a divinisé Ali, qui en a fait une divinité, un dieu. Et le cheikh, il dit que ce sont ceux qui ont déifié ou divinisé Ali. Ils en ont fait un dieu. Ils ont cru à son sujet ce qui n'est pas permis d'avoir comme croyance vis-à-vis d'une créature ou d'un ange rapproché ou d'un prophète envoyé ou quiconque qui serait en dessous d'eux. Et donc ceux qui ont dit cette parole-là et qui ont cru que Ali radiallahu anhu était un dieu, eh bien Ali radiallahu anhu les a brûlés vivants. Il les a fait brûler vivants, radiallahu anhu. La deuxième secte parmi la secte de ces gens-là, des Rafidah, c'est celle qu'on appelle As-Sabba, Al-Firqatustani As-Sabba, c'est-à-dire ceux qui croient que d'insulter Abu Bakr et Omar, c'est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah. Donc, ils appellent Abu Bakr et Omar Al-Jibt ou Al-Tarut. Ils appellent Abu Bakr les deux par ces noms-là. Et ça, c'est, bien entendu, des insultes. Et il les appelle aussi les deux idoles de Quraysh, son âme et Quraysh. Et ils accusent les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de nifaq, et d'avoir collaboré, coopéré dans le péché et dans la transgression, en prétendant qu'ils ont retiré la succession du khilafa de Ali radiallahu anhu, et qu'ils l'ont donné à Abu Bakr et Omar et Othman radiallahu anhum. Donc la troisième secte, c'est celle qu'on appelle Az-Zaydiyya. Et ce sont ceux qui disent que Ali ibn Abi Talib est meilleur que Abu Bakr et Omar radiallahu anhum. Sauf que ils ne vont pas jusqu'à déclarer Ali comme étant Dieu, et ils n'insultent pas non plus les deux, Abu Bakr et Omar, contrairement à ce que font les Mu'alliha et les Sabba, les deux premières sectes. Donc, les deux sectes, Al-Mu'alliha et Al-Sabba, leur bid'a, leur innovation, les rend mécréants. Parce que c'est une innovation qui est kufr, et c'est une forme de kufr, ou une catégorie de kufr qui est majeure. Et combien d'autres bid'a ils ont également en dehors de celle-là qu'on n'a pas mentionnée. C'est-à-dire ils ont plein d'autres innovations qu'on n'a pas mentionnées. En ce qui concerne Az-Zaydiyya, leur bid'a est une bid'a qui est mufassiqa, c'est-à-dire qu'elle tombe dans la désobéissance et le péché, sauf qu'elle n'est pas au degré de qu'est-ce qui fait tomber dans le kufr et qui fait commettre un kufr ou tomber dans la mécréance. Sauf peut-être certains d'entre eux qui sont extrémistes, comme ceux qu'on appelle Al-Jarudiyya, qui se sont ralliés à la secte des Sabba, ceux qui insultent les Sahaba. Et ceux-là, donc, parmi eux qui sont des extrémistes, leurs bid'a sont une bid'a qui est kufr, qui les rend mécréants. Parce que, bien entendu, d'insulter les Sahaba, c'est kufr. Et en ce qui concerne les Khawarij, ceux-là ont déclaré Ali, radiallahu anhu, comme étant un kafir, de même que tous les autres Sahaba qui étaient avec lui. Et ils ont même combattu les Sahaba et ont rendu leur sang halal. Ils ont rendu leur sang, le sang des Sahaba, halal. Et ils ont bafoué leur honneur et ont volé leurs biens. Donc ça, c'est ce qui a rapport avec la position des gens envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on voit qu'ils sont deux extrêmes et un juste milieu. Première extrême, c'est l'extrême des Khawarij, qui ont déclaré Ali radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, comme étant kafir, de même que ceux qui étaient avec lui. L'autre extrême, c'est l'extrême de ceux qui sont tombés dans l'exagération au sujet de l'amour de Ali radiallahu anhu, et qui l'ont élevé à un degré, au-dessus de son degré, qui ont fait de lui un dieu, ou qui l'ont élevé au-dessus des autres sahaba, et de même que le reste de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est l'autre extrême. Et il y a le juste milieu, la position du juste milieu, qui est la position d'Ahlul Sunnati wal Jama'a, puisque ils ne sont pas dans l'extrémisme ou dans le laxisme d'un ou de l'autre. Ils sont au juste milieu en ce qui concerne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent à leur sujet ce que le Coran al-Karim a mentionné, et ce que la Sunna mentionne également à leur sujet, et ils n'ont rien changé à cela, et ils n'ont pas fait aucun changement à ça. Ensuite, donc, il y a une question qui a été posée, et la première question, c'est une seule question en fait, et non, il y a deux questions. Donc, la première question, c'est celui qui a donné précédence à Ali, radiallahu anhu, sur Othman, dans le mérite, est-ce que celui-là est considéré comme un innovateur? C'est-à-dire celui qui préfère Ali dans le mérite et qui dit que Ali est meilleur que Othman, radiallahu anhuma. Est-ce que celui-là est considéré comme un innovateur? La réponse à cette question, le cheikh Zayd il dit, celui qui fait précéder Ali, radiallahu anhu, sur Othman, radiallahu anhu, après que le consensus ait été établi sur le fait que Othman est meilleur que Ali, alors cette personne-là ne sort pas d'une des deux situations suivantes. Soit que cette personne fait partie des Rawafid, fait partie des Shia Rafida al-Ithna Ashriya, ce qu'on appelle les 12, les duodécimains, c'est-à-dire ceux qui croient aux 12 imams successeurs. Ou bien on les appelle aussi Ja'fariya ou bien Imamiya. Tout ça, c'est des noms pour les Rafida. Rawafid, Ithna Ashriya, Ja'fariya ou Imamiya. Donc, si c'est une personne qui fait partie de ceux-là, donc on ne prend même pas en considération sa parole. Pourquoi? Parce que pour lui, pourquoi? Parce que il fait partie des gens de kufr et des gens de péché et des gens de désordre sur la terre. Et il fait partie de la secte des sabbas, c'est-à-dire ceux qui font de l'insulte et de maudire et d'insulter Abu Bakr et Omar, ils en font ils font de ça une adoration. Et ils croient que d'insulter Abu Bakr et Omar, c'est une adoration. Donc ils le font jour et nuit. Donc ils insultent Abu Bakr et Omar, alors que ce sont eux qui sont les meilleurs de cette Ummah. Ce sont ces deux-là qui sont les meilleurs de la Ummah après son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont eux également qui disent clairement et explicitement que la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha, était une adultéresse. Après que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait innocentée dans le Coran, dans des versets qui seront récités dans Surat An-Nur, qui sont récités dans Surat An-Nur. Donc, comme ces gens-là ont de nombreuses croyances qui sont corrompues et mauvaises, parmi ces mauvaises croyances qu'ils ont, les croyances corrompues qu'ils ont, ils ont la suivante. C'est par exemple qu'ils disent qu'ils croient que leurs imams sont infaillibles. Ils ont 12 imams qui sont des descendants de Ali, radiallahu anhu, et ils disent que ces 12 imams-là sont infaillibles et qu'ils ne meurent que par leur propre décision. C'est-à-dire que quand ils meurent, c'est parce qu'ils l'ont voulu et qu'ils l'ont choisi eux-mêmes. Et qu'ils savent à l'avance quand est-ce qu'ils meurent. Donc ça, c'est une de leurs fausses croyances. Une autre de leurs fausses croyances, c'est qu'ils rendent halal, ils rendent licite, le mariage de jouissance. C'est-à-dire le mariage pour un temps prévu à l'avance. Et ils préfèrent ce genre de mariage au mariage des musulmans. Après que cette chose-là, en fait, ait été interdite par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ce genre de mariage, de jouissance temporaire, il a été interdit par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a le consensus de la Ummah à propos de son interdiction. Un autre point, également, parmi leurs fausses croyances, c'est le fait qu'ils mentent contre les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent qu'ils ont déformé ou falsifié le Coran, qu'ils l'ont changé. Donc ça, c'est une de leurs croyances aussi. Et ils croient que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam sont devenus des hypocrites, des munafiqoun, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils se sont entraidés et qu'ils ont collaboré et travaillé entre eux dans le péché et la transgression pour enlever à Ali radiallahu anhu son droit, et également beaucoup d'autres parmi les graves innovations qui cassent le dos et brisent le dos. Donc ils ont de graves innovations. Donc le cheikh, il continue, il dit donc soit que cette personne fait partie de cette catégorie, donc on ne prend pas en considération ce qu'il dit, ou bien qu'il fait partie, il y en a de ceux qui donnent précédence à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sur Othman ibn Affan radiallahu anhu, après le consensus de la Ummah parmi les gens de la secte des Zaydiyah, ceux qui ont considéré ceux que les gens de Ahl-Sunnah considèrent comme faisant partie des sectes musulmanes qui sont innovatrices et qui font partie des innovateurs ou des mubtadi'ah. Et il n'y a pas de doute que dans ce cas-là, ceux-là sont moins graves ou moins mauvais que ceux qu'on a mentionnés précédemment parmi les rawafid, les extrémistes. Parce que les rawafid sont des extrémistes. Tant que cette bid'a-là qu'ils ont ramenée n'atteint pas le degré de kouf en Allah comme la bid'a des rawafid extrémistes. Donc, celui qui fait partie de la première secte, la secte des rawafid extrémistes, ceux qui suivent les 12 imams, les duodécimains, on les appelle parfois dans des livres traduits en français, ou bien la secte des Ja'fariyya, al-Imamiyya. Donc, si c'est ceux-là, on ne prend pas en considération leurs paroles. Leur parole n'a aucun poids dans la balance de l'islam. Et on juge à leur sujet qu'ils sont dans le kouf à cause de leurs croyances corrompues. Et parmi ces croyances-là, celles qu'on a mentionnées comme exemple. Et et parmi les exemples également de ces fausses croyances-là, qui est encore plus grave et plus grand encore, il y a le shirk majeur qu'ils font, qui se manifeste par le fait de vénérer les gens qui sont enterrés dans les tombeaux et de chercher leur secours et de les appeler au secours et de leur demander le support et la subsistance et des choses de ce genre. Donc ça, c'est des exemples de shirk majeurs. Et le cheikh, il dit ensuite, tandis que ceux qui font partie de la deuxième secte, la secte des Zaydiyah, donc ceux-là, eux aussi, on ne se fie pas à leurs paroles. Lorsqu'ils disent qu'ils préfèrent Ali sur Othman, radiallahu anhumah, après que le consensus ait été établi sur l'ordre des khulafa, les quatre khulafa, et que cet ordre-là, c'est le même dans le khilafa et dans le mérite. Et dans l'excellence. Et donc, l'ordre du khilafa et l'ordre du mérite, c'est que le premier c'est Abu Bakr, puis ensuite Omar, puis ensuite Othman, puis ensuite Ali, radiallahu anhum. Et donc, c'est-à-dire qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'il soit satisfait également des autres compagnons de notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième question, c'est la suivante. Le fait de décrire les khulafa ar-rashidin, ou lorsqu'on dit les khulafa ar-rashidin, est-ce que c'est spécifique, les successeurs qui sont bien sur la droiture et bien guidés, est-ce que c'est spécifique à Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum, ou bien d'autres peuvent rentrer dans cette description-là, comme par exemple Omar ibn Abdul Aziz. Hein? Et ça a été un khalifa qui est venu plus tard. Hein? Il y en a plus tard après. Donc la réponse à cette question, le Cheikh Zayd il dit, lorsqu'on dit les khulafa ar-rashidin, ou bien les khulafa ar-rashidun, les successeurs sur la droiture bien guidés, on parle par, en disant ça, on fait allusion à qui? Aux successeurs, les quatre seulement, c'est-à-dire les quatre khulafa seulement. Et ce que des ulama ont mentionné à propos de Omar ibn Abdul Aziz, qu'on pouvait le rallier aux autres quatre parmi les quatre khulafa, à cause de ce qu'on a mentionné à son sujet du fait qu'il était juste, et qu'il était honnête et droit dans son khilafa, lorsqu'il a été le khalifa des musulmans. Le cheikh il dit que la vérité c'est que il n'y a pas deux personnes qui divergent sur le fait que tous les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que tous ceux qui viennent après eux. Et la preuve de ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: laissez mes compagnons, parce que si l'un d'entre vous devait donner en au monde la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud, eh bien, ça n'aurait même pas atteint la valeur de ce qu'un sahabi donne comme une poignée de main en sadaqa, ou bien même la moitié d'une poignée de main. Donc, c'est pour dire que le mérite des sahaba il ne peut jamais être égalé. Donc, tous ceux qui viennent après les sahaba, parmi les gens qui suivent la droiture et qui suivent la bonne voie, alors, il a des caractéristiques de mérite, selon ce qu'il a établi en lui-même comme bonne action, et selon également ce qu'il a subi comme épreuve, parmi les bonnes épreuves qu'il a subies. Ce qui vient conclure donc la lecture du Sharh, et on va maintenant traduire le commentaire du Cheikh Zayd sur cette partie dans le cours audio que le Cheikh a fait, donc le commentaire qu'il a fait à la fin de cette partie-là. Donc, il dit le Cheikh, il dit Masha'Allah, il dit donc louange à Allah et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Ce sujet fait partie des sujets importants dans la croyance. Et c'est la position des gens envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon générale et à propos des khulafa ar-rashidin en particulier. En ce qui concerne les gens qui ont suivi, c'est-à-dire qui suivent la voie d'Ahl-Sunnah, qui suivent la Sunnah en réalité, ceux-là, ils reconnaissent le mérite des sahaba. Yani avec leurs différents degrés, différents niveaux qu'ils ont. Parce que Allah, le sage, a préféré certaines créatures sur d'autres. Le cheikh, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des prophètes, des messagers, il dit tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, c'est-à-dire parmi les messagers il y en a que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré sur d'autres, et les nobles sahaba également, parmi eux il y en a qui sont nobles et il y en a d'autres qui sont en dessous d'eux. Donc si on dit par exemple que parmi eux il y en a qui sont bons et il y en a d'autres qui sont meilleurs, eh bien, il ne faut pas sentir que celui qui est bon, il est diminué, ou qu'on le rabaisse par rapport aux autres. Ils sont tous sur le bien et sur la guidance, et et ils sont tous unis dans la meilleure des caractéristiques, et c'est la caractéristique d'être le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont tous en commun la meilleure caractéristique, qui est la caractéristique d'être un sahabi, c'est-à-dire d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont pris cette caractéristique-là, et ils ont respecté son droit, chacun selon sa capacité, et aucun d'entre eux a eu de manquement. Et les gens de la sunna ont cru en cela, parmi les gens d'Ahl sunna et ceux qui les suivent parmi les gens du commun, dans le fait de préférer les Khulafa Rashidin, les quatre d'entre eux, de les préférer sur les autres, et que leur ordre dans le mérite, comme on les a mentionnés dans les livres de Aqida, Abu Bakr As-Siddiq, c'est le premier khalifa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le meilleur des hommes après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et après les messagers et les prophètes. Donc il était celui qui méritait le mieux, il méritait le plus, le khilafa et son khilafa, c'est-à-dire sa succession, a été établi par les textes et par le consensus. Et il est suivi par Omar al-Farouq, radiallahu anhu, et ils sont suivis tous les deux par Othman ibn Affan. Après, qu'est-ce qui est arrivé comme divergence entre le fait, est-ce qu'on donne précédence à Othman ou Ali? Il y a eu une divergence là-dessus. Le comité de consultation parmi les six compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été guidés à donner précédence à Othman ibn Affan dans le khilafa. Et il est suivi par la suite par Ali ibn Abi Talib, et ça c'est devenu un consensus, il n'est pas permis de le briser et personne ne doute à ce sujet-là. Et après eux, les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont à des différents degrés et différents niveaux dans le fait d'être sahabi et dans le mérite qu'ils ont. Chacun selon son degré. Chacun a des particularités par lesquelles ils ont été mentionnés. Donc on prend ces choses-là en considération. Donc pour résumer, la croyance des croyants, des premiers croyants et des derniers croyants, ceux qui ont précédé et ceux qui ont suivi, c'est de croire en le mérite des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont dit à leur sujet ce que Allah et son messager ont dit à leur sujet, comme les versets qu'on a mentionnés dans le résumé, et de même que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'ah ont cru en cela, les premiers et ceux qui ont suivi, les derniers d'entre eux jusqu'au jour de la résurrection, ils croient en ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans sa parole lorsqu'il dit: et ceux qui sont venus après eux disent: ô notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans notre cœur de rancune envers ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes pardonneur et miséricordieux. Donc ça, c'est les caractéristiques des gens de la foi après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait mentionné les muhajirines, et il a mentionné ensuite les ansar, et il a mentionné tous ceux qui viennent par la suite après eux, parmi ceux qui suivent la bonne voie, que leur position envers les sahaba est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran à leur sujet. Ils disent: ô notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans notre cœur de la rancune envers ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes compatissant et miséricordieux. En ce qui concerne les gens de Bid'a, donc, c'est comme vous avez entendu. leur position envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les Khawarij, c'est la première secte parmi les sectes des gens de Bid'ah, puisque le premier d'entre eux s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa distribution des butins. Et il a dit, sois juste ô Muhammad. Il a dit, ça c'est une distribution pour laquelle on n'a pas voulu le visage d'Allah. Ainsi que d'autres paroles qu'il a dit qui sont des paroles de quelqu'un qui n'a pas de respect et qui a un cœur dur. Il y a un cœur dans lequel la foi n'est pas rentrée. Certains compagnons ont voulu le tuer. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas permis. Il a dit, laisse-le. Parce que de celui-là, des gens vont sortir, de cette catégorie ou de cette sorte de personne. Il y a des gens qui vont sortir. Vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière et leur récitation par rapport à votre récitation. Vous allez mépriser votre récitation par rapport à leur. Et ils vont sortir de la religion comme la flèche quitte son arc, ou comme elle traverse sa proie. Et ça, c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il avait annoncé ça, et ils sont sortis contre Ali ibn Abi Talib, ainsi que ceux parmi les sahaba qui étaient avec lui. Ils ont donc par la suite fait toutes sortes de fitnas, et il y a eu un combat entre les sahaba qui suivaient Ali radiallahu anhu et la secte des Khawarij. Et Allah les a aidés contre les Khawarij. Ils les ont combattus. Et ceux d'entre eux qui se sont enfuis, se sont enfuis. Et ça, c'est la conclusion des gens de Bid'ah. Ils n'ont jamais de victoire. Parce qu'il n'y a rien de bon en eux. Il n'y a rien de bon. Et tous ceux qui agissent comme eux, parmi ceux qui sont venus après, parmi ceux qui veulent opposer les dirigeants et qui veulent les enlever du pouvoir et leur enlever le pouvoir, ils font partie eux aussi des Khawarij, comme les faibles d'esprit font à notre époque lorsqu'ils sortent contre les dirigeants. Le dirigeant musulman. Parce que il a fait quelque chose d'injustice ou qu'il a eu un manquement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre ça. Et il a ordonné de faire preuve de patience à propos des dirigeants qui sont injustes. Et la raison de ça, c'est uniquement à cause du besoin que les gens ont de ce dirigeant-là. Et ce que Allah réforme par leur intermédiaire est plus grand que le bien, que le mal que ces dirigeants-là peuvent faire. Et c'est pour ça qu'une des croyances de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est de respecter notre engagement envers ce dirigeant-là, qui est un dirigeant légal, dont le pouvoir et l'autorité a été confirmé par le choix des gens d'entre les musulmans qui sont haut placés et qui ont la décision, ou bien parce qu'il a pris le dessus sur les autres et qu'il fait partie des musulmans, il n'est pas permis pour quelqu'un d'autre de se dire à lui-même qu'il veut sortir contre le dirigeant. Parce que celui qui fait ça, il devient un d'entre les Khawarij que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé, et il a dit à leur sujet qu'ils sont les chiens de l'enfer. En ce qui concerne les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, leur position envers les dirigeants, même s'ils font de l'injustice et qu'ils prennent l'argent et qu'ils frappent le dos, leur position envers eux, c'est de respecter l'engagement et de faire preuve d'endurance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a incité en disant, il a incité à faire ça en disant, sois patient, même s'il frappe ton dos et qu'il prend tes biens. Donc, ils ont, les gens de la Sunna ont eu le succès de la voie correcte, ils ont préservé leur vie et la religion, et les biens et l'honneur, parce qu'ils ont fait preuve d'endurance et qu'ils se sont accrochés au conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les Khawarij sont une secte qui a transgressé et qui est tyrannique. Il n'y a aucun bien en eux. Ce n'est pas uniquement ceux d'entre eux qui sont sortis contre Ali ibn Abi Talib. Hein, ça ne se limite pas uniquement à eux. Leur sortie, elle se répète. Selon l'époque et l'endroit. Donc ils réapparaissent. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que parmi eux, il y en a 20 sectes parmi les Khawarij. Et qu'ils vont se succéder avec cette idée qui est erronée et déviée. Leur idée qui est erronée et déviée. En ce qui concerne les Rawafid, comme vous avez entendu dans le Sharh, et leur catégorie, qu'ils sont quatre catégories, les Mu'alliha, les Sabba et Al-Mufaddala. Donc les premiers, c'est ceux qui ont divinisé Ali ibn Abi Talib. C'est ceux qui étaient sur la aqida de ces gens-là à l'époque d'Ali radiallahu anhu, et ceux qui ont cette aqida aujourd'hui jusqu'à nos jours. Il y en a qui ont encore cette aqida aujourd'hui, qui croient que Ali est Dieu. Et ils prétendent, ils croient qu'il va avoir le jugement au jour de la résurrection pour juger entre les hommes. Et ça fait partie des mensonges que les Rawafid se sont accaparés ou bien ils sont les seuls à avoir ramené cette innovation-là parmi les sectes islamiques. Et il dit ensuite, le cheikh, que on peut ajouter à ça également le shirk majeur qu'ils font. Ouvertement. Et ils considèrent que cela fait partie de l'adoration, qui est obligatoire pour eux. Et donc, ils se sont égarés en eux-mêmes, et ils ont égaré le commun des gens avec eux. Avec les tombeaux, et la visite des tombeaux, et de s'accrocher à ces tombes-là, et leur croyance à propos du Mahdi attendu, donc Al-Mahdi Al-Muntazar, c'est qui va établir la justice à la fin des temps. Ils ont beaucoup d'autres mensonges également dans leurs livres et qu'on entend par leur langue. Et la deuxième secte, c'est As-Sabba, ceux qui insultent Abu Bakr et Omar, et les Sahaba en général également. Ils les insultent. Et ils n'ont pas un effet d'exception, excepté un petit nombre d'entre les Sahaba qui ont été exemptés de leur langue et de leurs insultes. Et Al-Mufaddila sont moindres. Ils sont moins graves, ils sont moindres dans leur bid'a que les autres, mais quand même, depuis qu'on parle d'une bid'a, on parle de quelque chose qui est mauvais, qui est un grave danger. Donc, même si ce n'est pas le même degré d'égarement, mais c'est quand même une bid'a. Et du moment que c'est une bid'a, c'est un grave danger, un grand mal, mais qui est moins grave que la première secte et la deuxième. Et ce sont les Zaydiyas. Et c'est ceux qui ont préféré Ali ibn Abi Talib à Othman, mais ils n'ont pas insulté les deux chefs, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, et ils n'ont pas déclaré kuffar les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, toutefois, ils ont exagéré à propos d'Ali et ils l'ont préféré à Abu Bakr et Omar. Donc, ils ont contredit les textes et le consensus. Et donc, ils sont tombés dans un grand mal. Même si on les calcule parmi les sectes musulmanes. Oui. Donc, il y a les questions maintenant. Comment on répond à celui qui insulte Muawiyah, qui attaque Muawiyah en utilisant comme argument qu'il est sorti contre Ali radiyallahu anhu. Donc comme prétexte qu'il est sorti contre Ali alors que Ali était le khalifa à cette époque-là. Donc, comment on répond à ça? Le chef, il dit celui qui attaque Muawiyah fait partie des gens de Bid'a et de l'égarement. Parce que la position des musulmans sincères dans leur islam, vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils les aiment et qu'ils disent radiyallahu anhum, et que ce qui est arrivé comme divergence entre eux à l'époque d'Ali ibn Abi Talib et de Muawiyah ou à d'autres époques, ils sont soit entre une des deux personnes suivantes, soit qu'il a une raison parce qu'il a fait une ijtihad, il a donc deux récompenses. La récompense d'avoir la bonne réponse et d'avoir fait l'ijtihad. Et celui qui a commis une erreur, il a une seule récompense et son erreur est excusée. Et les gens d'Ahl-Sunnah wa Jama'a sont d'accord sur le fait qu'il faut qu'ils gardent leur langue au sujet de ce qui s'est produit entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe que ce soit entre Ali et Muawiyah radiyallahu anhumah, ou d'autres parmi les Sahaba. Deuxième question. Donc, il y a une femme qui, elle a été, donc, le Ramadan est arrivé et elle était Nufasa, c'est-à-dire elle était dans ses écoulements postnataux. Lequel des deux elle fait passer devant? Est-ce que c'est le fait d'allaiter ou le fait d'être Nufasa? Quel des deux a précédence? Le fait d'être dans les écoulements postnataux ou le fait d'allaiter? Donc le cheikh il répond, il demande de répéter la question. Le cheikh il dit ça dépend du besoin urgent. Si elle brise le jeûne parce que ça va ramener un mal à son un tort à son bébé. Il dit, même si à notre époque, c'est pas présent puisqu'il y a du lait pour les bébés, autre que l'allaitement. Donc, il dit, dans ce cas-là, elle doit jeûner si elle a fini ses écoulements postnataux. Donc, elle doit jeûner si elle a été purifiée. La base, c'est qu'elle jeûne du moment qu'elle a été purifiée des écoulements postnataux. Et elle fait la salat du moment qu'elle n'est pas malade. C'est obligatoire pour elle donc de faire cette obligation-là de jeûne. Et elle donne à son bébé, qu'est-ce qui est présent à notre époque comme une nourriture pour son bébé parmi les nourritures qui existent à notre époque pour les bébés, qui est spéciale pour les bébés. Et elle jeûne. Ça c'est la base. Mais s'il va arriver un tort au bébé si elle ne l'allaite pas, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème qu'elle brise son jeûne à cause de ça. Et donc, il dit le chef, dans ce cas-là, elle doit reprendre ses jeûnes et nourrir après. Mais si elle était malade à cause des traces de sang qui coule après l'accouchement, dans ce cas-là, elle va seulement nourrir, elle ne va pas reprendre le jeûne. Elle va nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué, si elle avait un nifas. Une autre question. Est-ce que Zul Khuwaysira faisait partie des Sahaba? Il dit non. Non, il n'est pas considéré. Il n'est pas considéré comme faisant partie des Sahaba, même si il a vécu à cette époque-là. Il y a une personne qui est déviée ou l'innovateur. Il ne fait pas partie des Sahaba et on ne l'appelle pas Sahabi non plus. Les Sahaba, c'est ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi avec ce qu'il a amené. Mais ses ennemis, même s'ils l'ont vu et qu'ils étaient à son époque, ceux-là ne sont pas parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre question, c'est est-ce que celui qui est tombé dans une bid'a parmi les bid'a des Khawarij, on l'appelle Khariji, ou bien c'est une condition qu'il croit à toutes leurs croyances? Le cheikh dit non. Le cheikh dit que l'action indique la croyance. Celui qui fait l'action des Khawarij, ça suffit. Son action, et ça indique sa croyance. Hein? Et on avertit son état aux gens pour pas que les gens soient trompés par lui. Et celui qui va clarifier ça, sont les ulama, ceux qui ont connu la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a et qui ont connu la croyance de ceux qui opposent parmi les Khawarij, Mu'tazila, Rawafid et autres. Donc celui qui juge, ce sont les hommes de science, ceux à qui Allah a donné une grande portion de la science. Donc la dernière question, c'est que les deux imams, Ar-Raziyan, ils n'ont pas mentionné le Khilafa de Al-Hassan comme faisant partie du Khilafa Ar-Rashid. Personne ne l'a mentionné. La réponse est que personne ne l'a mentionné parmi les Khulafa Ar-Rashidoun. Donc, Ar-Raziyan, ils n'ont pas eu de manquement en ne le mentionnant pas. Et donc, ça, c'est la fin du cours numéro 4. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.